Phil, c'est Alexis Gagnon au micro. On a un menu chargé aujourd'hui. Accrochez-vous bien à la fréquence 107.9 FM. On va lancer tout de suite cette édition de l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien à l'antenne de CILS FM 107.9. Dans les colonnes du Média Ouest France, Theresa May prête à bafouer les droits de l'homme pour lutter contre le terrorisme. La première ministre britannique Theresa May s'est dite prête à modifier les lois protégeant les droits de l'homme si nécessaire pour combattre le terrorisme. Theresa May soutient qu'il faut agir davantage pour restreindre la liberté et les mouvements des terroristes suspectés lorsqu'il existe des preuves suffisantes qu'ils représentent une menace. Si nos lois sur les droits de l'homme ne l'empêchent pas, nous les changerons pour pouvoir faire cela. Si je suis élu jeudi 8 juin, ce travail commencera vendredi, a-t-elle indiqué. Après l'attentat terroriste qui a fait 8 morts et 48 blessés à Londres samedi, le troisième subi par le Royaume-Uni en moins de 3 mois, la chef du gouvernement a déclaré que la police et les agences de renseignement devraient avoir les pouvoirs nécessaires pour combattre une menace de plus en plus complexe. Pour cela, Theresa May propose de restreindre les mouvements des présumés terroristes même quand il n'y a pas de preuves suffisantes pour présenter une accusation totale devant un tribunal. Inutile de dire que cette prise de position de la part de Theresa May a suscité de vives critiques dans le camp adverse et même parmi les siens. On a donc dans cet article un compte-rendu de la campagne des derniers jours. Il y a notamment cette déclaration de Jeremy Corbyn qui était à Birmingham cette semaine pour un meeting politique, alors que les conservateurs promettent 5 années de plus d'un pays gouverné par les super riches et des coupes budgétaires pour tous les autres, le parti travailliste transformera le Royaume-Uni grâce à des investissements dans les infrastructures et en reconstruisant la santé et les services publics. L'ex-directeur du FBI accuse l'administration de Donald Trump de mensonge. C'est tiré du fil de l'agence Reuters. L'ancien directeur du FBI, James Comey, a accusé jeudi l'administration Trump de l'avoir calomnié et d'avoir dit des mensonges au sujet de la police fédérale, mais n'a pas voulu dire si le président Donald Trump avait cherché à faire obstruction à la justice en lui demandant de renoncer à une enquête sur son ancien conseiller à la sécurité nationale. James Comey, qui était auditionné par la commission du renseignement du Sénat, a déclaré qu'il avait été perturbé par les explications changeantes données par l'administration Trump pour son limogeage du 9 mai dernier. Bien que la loi ne mentionne aucune raison particulière pour renvoyer le directeur du FBI, l'administration a alors choisi de me calomnier et, plus important encore, de calomnier le FBI en disant que cette organisation était désorganisée, que le personnel avait perdu confiance en son dirigeant, a déclaré l'ancien directeur du FBI, nommé en 2013 sous Barack Obama pour une durée de 10 ans. Il s'agit de mensonges purs et simples et je suis désolé que le personnel du FBI ait dû les entendre et qu'on ait dit cela au peuple américain. Plusieurs commissions parlementaires rappellent cet article, ainsi que le FBI lui-même et le procureur spécial Robert Mueller, nommé le 17 mai par le département de la justice, tentent de faire le jour sur des accusations de collusion entre la campagne de Donald Trump en 2016 et la Russie de Vladimir Poutine, accusations qui ont été démenties par l'administration Trump et aussi par le Kremlin, rappelle cet article. Donc vous trouverez ça dans le portail Mediapart.com. L'ex-directeur du FBI accuse l'administration Trump de mensonge. On va rester encore un petit peu dans le portail de Mediapart. Les attentats de Téhéran commis par des Iraniens de l'État islamique. C'est tiré du fil de l'agence Reuters. Les auteurs du double attentat commis mercredi contre le Parlement iranien et contre le mausolée de l'Ayatollah Khomeini à Téhéran étaient des membres iraniens du groupe État islamique, l'EI, et avaient combattu dans des fiefs de l'organisation djihadiste en Syrie et en Irak, indiquent les autorités iraniennes. Les 5 hommes qui ont péri dans cette double attaque ont combattu pour l'État islamique dans les bastions de Raqqa en Syrie et de Mossoul en Irak, a précisé le ministère iranien du renseignement cité par l'agence iranienne IRNA. Les 5 attaquants étaient iraniens, a précisé cette agence. Ils avaient auparavant quitté l'Iran et ont participé aux crimes du groupe terroriste à Raqqa et à Mossoul, indique un communiqué du ministère et publié par l'agence de presse publique IRNA. Et cet article rappelle que l'État islamique a revendiqué rapidement la responsabilité de ce double attentat commis à Téhéran. Et le Monde revient sur cet attentat également. Attentat en Iran, les autorités craignent la montée du salafisme dans la minorité sunnite iranienne. Le Monde ici propose un entretien avec Stéphane Dudoignon, qui est chercheur au CNRS à Paris et spécialiste de la minorité sunnite en Iran. Le Monde lui a posé quelques questions. Il s'agit de la première attaque terroriste en Iran revendiquée par l'organisation État islamique. Peut-on parler d'un 11 septembre iranien, demande le journal Le Monde. Réponse du spécialiste, il ne fait pas de doute que cette attaque marquera les esprits. D'autant que les cibles choisies, le Parlement et le mausolée de l'ayatollah Khomeini, restent atypiques des attentats de l'État islamique, contrastant avec les attaques de civils ou de policiers et de militaires isolés qui ont caractérisé les attentats terroristes en Europe. Ceux de Téhéran affectent des symboles forts de la République islamique iranienne et ont fait immédiatement penser à un commanditaire autre que l'État islamique, de longue date assimilé par les Iraniens à un État rival, l'Arabie saoudite. Cependant, ces deux attaques n'ont pas pris les Iraniens par surprise. Beaucoup d'observateurs et d'intellectuels locaux, depuis les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, se demandaient pourquoi l'Iran demeurait épargné, poursuit le spécialiste interrogé par Le Monde. Avec la dégradation de la situation diplomatique dans la région du Moyen-Orient, continue le spécialiste, depuis la visite de Donald Trump en Arabie saoudite, le sujet était redevenu d'actualité dans les conversations. Alors vous trouverez la suite de cet entretien très éclairant sur les attentats commis en Iran cette semaine dans le journal Le Monde. Attentat en Iran, les autorités craignent la montée du salafisme dans la minorité sunnite iranienne. Le média Jeune Afrique nous apprend que le ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian est en Égypte pour une visite. Le titre de cet article, le dossier libyen au menu de la visite de Jean-Yves Le Drian au Caire. C'est par la rédaction de Jeune Afrique. Le dossier libyen était au menu des conversations ce jeudi au Caire lors de la visite du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, venu rencontrer son homologue égyptien Sameh Choukri. Nous ne pouvons laisser prospérer à la frontière égyptienne et aux portes de l'Europe une instabilité dont profitent les terroristes et les trafiquants en tout genre, a pointé jeudi Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères français, lors de son premier déplacement en Égypte en tant que ministre des Affaires étrangères, qualifiant au passage le dossier libyen d'enjeu important. L'ancien ministre français de la Défense, qui était à Tunis en début de semaine où il a également évoqué ce dossier, a par ailleurs souligné qu'il était venu porter un message d'amitié de la part d'Emmanuel Macron, le nouveau président français, message de soutien pour les réformes en cours en Égypte et message de solidarité face au terrorisme qui a récemment encore endeuillé l'Égypte. Oui, alors le terrorisme justement en Égypte, c'était des attaques contre la communauté copte perpétrée par l'État islamique, attaque encore récente il y a quelques semaines à peine. Au cours de sa visite de 24 heures en Égypte, Jean-Yves Le Drian doit aussi s'entretenir avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et avec le pape de l'église copte orthodoxe Tawadros II, auquel il présentera ses condoléances pour les récents attentats contre sa communauté. Alors cet article paraît dans Jeune Afrique, Égypte, le dossier libyen au menu de la visite de Jean-Yves Le Drian au Caire. On revient dans le portail Mediapart, cette fois pour une nouvelle qui nous arrive de Scandinavie. La Cour suprême de Norvège rejette l'appel de Breivik. Vous vous souvenez peut-être de Anders Behring Breivik, ce malade qui a abattu de jeunes membres d'un parti politique norvégien. Je crois qu'il avait fait près de 80 victimes. Je vous lis quelques passages de cette nouvelle paraissant dans le fil de Reuters et sur le site de Mediapart. La Cour suprême norvégienne a indiqué jeudi qu'elle n'examinerait pas l'appel présenté par le militant néo-nazi Anders Behring Breivik, auteur de deux attaques meurtrières à Oslo en juillet 2011. Alors Breivik, qui demeure emprisonné, bien sûr, estime que ses conditions de détention sont contraires au respect des droits de l'homme. Breivik avait saisi la plus haute cour de justice en Norvège après qu'une cour d'appel eut estimé dans un arrêt rendu en mars dernier que les conditions de détention dans une cellule de 3 pièces étaient conformes au respect des droits de l'homme. La commission d'appel de la Cour suprême a décidé à l'unanimité le 8 juin 2017 de ne pas examiner plus avant l'appel de Breivik dans la procédure qu'il a intentée contre l'État. Si vous suivez l'actualité, vous savez que le président américain Donald Trump affectionne particulièrement le réseau social Twitter. On a justement un article sur le sujet dans le journal Le Monde. Donald Trump fragilisé par son utilisation frénétique de Twitter. La micro-messagerie qu'affectionne tant le président lui donne aussi l'occasion de laisser libre cours à son agressivité et dénoncer des contre-vérités et des approximations. C'est par le correspondant du Monde à Washington, Gilles Paris. Donald Trump s'est imposé comme le premier président Twitter des États-Unis. Les millions de followers que son compte personnel a agglomérés avant et surtout après son élection en novembre 2016 lui permettent, selon ses dires, de contourner les médias traditionnels qu'il juge, non sans raison, globalement critiques quant à son action, afin de défendre directement son point de vue. Mais, écrit le journaliste du Monde, la micro-messagerie qu'affectionne le chef de l'État américain lui donne aussi l'occasion de laisser libre cours à son agressivité au point de se fragiliser lui-même. La preuve en est apportée depuis l'attentat de Londres survenu le 3 juin. Donald Trump a trouvé l'occasion de régler de vieux comptes avec le maire de la capitale britannique, Sadiq Khan. En décembre 2015, en effet, le maire de Londres avait vivement critiqué Donald Trump alors que celui-ci n'était encore qu'un candidat à l'investiture républicaine. Le maire de Londres avait critiqué Trump pour son projet d'interdire l'entrée aux États-Unis aux étrangers de confession musulmane après l'attentat de San Bernardino en Californie. Dimanche, Donald Trump s'est appuyé sur une déclaration tronquée du maire de Londres pour faire entendre que ce dernier voulait minimiser le drame. La stupeur créée par cette critique et la restitution de la citation entière de M. Khan n'ont pas dissuadé lundi matin le locataire de la Maison-Blanche de renchérir, dénonçant une excuse pathétique du maire et la complicité des médias traditionnels. Et le journaliste du Monde rappelle que les attaques de Londres ont ravivé l'acrimonie de Donald Trump concernant le blocage par la justice américaine d'un décret visant à interdire temporairement l'accès au sol américain pour les ressortissants de 6 pays d'Afrique et du Moyen-Orient où l'islam est la religion majoritaire. L'occupant du bureau Oval à Washington a publié un message sur Twitter réaffirmant la nécessité de cette mesure samedi soir avant même d'exprimer sa solidarité avec les Britanniques. Et l'article un peu plus loin indique que l'usage que fait Donald Trump de Twitter est critiqué par une majorité d'Américains. Vous trouverez cet article dans le journal Le Monde, Donald Trump fragilisé par son utilisation frénétique de Twitter. Jeune Afrique parle également de Twitter dans son édition d'aujourd'hui et propose ce terme « twiplomatie », une sorte de contraction entre Twitter et diplomatie. « Votre président est-il influent sur les réseaux sociaux ?» demande Jeune Afrique. Sur la twittosphère, les leaders africains sont encore loin des champions du genre, à savoir Donald Trump, le pape François ou encore le président indien Narendra Modi. Pourtant, beaucoup de dirigeants africains, écrit Jeune Afrique, ont une vie sur les réseaux sociaux avec des succès variables et des approches différentes. Alors c'est un tour d'horizon que propose Jeune Afrique dans cet article, un tour d'horizon des chefs d'État africains et une évaluation de leur présence respective sur Twitter. Ils ont pour se faire inventer un terme, twiplomatie, diplomatie sur Twitter, si vous voulez. Votre président est-il influent sur les réseaux sociaux? Vous trouverez ça sur le portail jeuneafrique.com. Et c'est sur cette actualité trouvée pour vous sur le portail de jeuneafrique.com que se referme la revue de presse internationale des 8 et 9 juin. Restez avec nous à l'antenne de votre radio communautaire francophone locale. L'émission Le Débrief se poursuit dans quelques instants avec la revue de presse canadienne. Merci d'être à l'écoute de l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien à l'antenne de votre fréquence communautaire francophone locale. Nous sommes dans l'édition du jeudi 8 juin et du vendredi 9 juin toujours, et nous allons passer aux nouvelles canadiennes. Voici votre revue de presse nationale. Devant la perspective d'un blocage au Sénat, Madeleine Meyer rend les armes. C'est dans le fil de la presse canadienne et dans plusieurs autres médias canadiens aujourd'hui. Nous vous en avions touché mot hier. La nouvelle était encore toute chaude. Elle est sortie pendant la préparation de l'émission. Alors c'est officiel, empêtré dans une controverse qui s'éternisait et qui faisait les choux gras de l'opposition à Ottawa. Devant un possible désaveu du Sénat, Madeleine Meyer a retiré une épine du pied des libéraux en se récusant du poste de commissaire aux langues officielles du Canada. L'ancienne ministre du gouvernement libéral à Queen's Park, en Ontario, poursuit la journaliste Mélanie Marquis, a annoncé au gouvernement de Justin Trudeau qu'elle rendait les armes dans une lettre reçue mercredi par la ministre du patrimoine canadien, Mélanie Joly. Comme vous le savez, ma nomination a fait l'objet de controverses, ce que je regrette beaucoup, a écrit Madeleine Meyer dans cette missive datée du 6 juin qu'a fournie à la presse canadienne le bureau de la ministre Mélanie Joly. Considérant cette situation, j'en ai conclu que ma capacité d'assumer cette fonction pleinement et d'agir au nom des Canadiens serait grandement compromise, a enchaîné celle qu'avait choisi le premier ministre Justin Trudeau à l'issue d'un processus qui a fait l'objet de maintes critiques. La ministre Mélanie Joly, qui demeurait convaincue mercredi que le gouvernement libéral avait déniché une très bonne candidate, a accepté, bien entendu, selon sa propre expression, la décision dont elle a été informée par la réception de cette lettre. Sa prestation devant le comité plénier avait laissé plusieurs membres du Sénat pantois, rappelle la journaliste, et le risque que sa candidature soit bloquée était réel, car la côte était vraiment impossible à remonter, a indiqué mercredi le sénateur libéral indépendant Serge Joyal. Plusieurs sénateurs, poursuit l'article, ont offert la même analyse. Madeleine Meyer se dirigeait tout droit vers un mur. Le Sénat plus indépendant que souhaitait Justin Trudeau vient donc de lui servir une rebuffade en faisant avorter sa toute première nomination à un poste d'agent du Parlement. Vous trouverez cet article dans la presse canadienne. Devant la perspective d'un blocage au Sénat, Madeleine Meyer rend les armes. Un peu plus loin dans les pages du journal Le Devoir, Ottawa dévoile son offensive en défense. Le budget grimpera de 18,9 à 32,7 milliards de dollars sur 10 ans, écrit Marie Vastel, correspondante parlementaire à Ottawa pour le journal Le Devoir. C'est une belle journée pour être en uniforme, a résumé le chef d'état-major de la défense, Jonathan Vance, écrit Marie Vastel. Et pour cause, le gouvernement libéral promet des dizaines de milliards en nouvelles dépenses pour recruter des soldats, se doter de nouveaux avions de chasse et navires, de même que pour moderniser toute sa flotte militaire. La part importante de ces investissements se fera cependant attendre puisque l'augmentation considérable n'arrive qu'au-delà de la prochaine élection. Note expert et opposition. Le plan est ambitieux, poursuit Marie Vastel dans cet article, la facture aussi. Les libéraux de Justin Trudeau s'engagent à bonifier de 70% les budgets de la défense nationale d'ici 10 ans. Sur 20 ans, ce sont 62 milliards en fonds nouveaux qui sont prévus. Cela n'inclut pas le coût de grandes opérations futures, a en outre expliqué le ministre de la Défense Arjit Sajjan en présentant son plan de match des deux prochaines décennies. Invité à de nombreuses reprises à préciser où il trouverait les sommes importantes, le ministre de la Défense n'a jamais offert de réponse en point de presse cette semaine. On prend l'engagement de dépenser ces sommes-là pour nous assurer que nous allons respecter les engagements qu'on prend aujourd'hui, a offert en guise de réponse le ministre des Transports, Marc Garneau, qui accompagnait le ministre de la Défense pour dévoiler les conclusions de la révision de la politique de défense menée par le gouvernement libéral depuis un an. Ces détails financiers, a déclaré Marc Garneau, seront des choses qui vont être définies plus tard. Or, plusieurs observateurs restent sceptiques, écrit Marie Vastel. Ces observateurs craignent que les promesses ne se concrétisent pas avec le temps. David Perry, analyste en défense à l'Institut canadien des affaires mondiales, s'est dit agréablement surpris de voir une bonification des budgets encore plus ambitieuse qu'espérée. Mais reste que la grosse part des sommes ne sera pas versée avant 4 ans, soit après les élections de 2019. Et on trouve dans cet article des graphiques qui montrent la place du Canada parmi les autres membres du G7 en matière de défense et de dépenses militaires. C'est assez instructif, donc je le rappelle, c'est sous la plume de Marie Vastel dans le journal Le Devoir. Ottawa dévoile son offensive en défense. On va se tourner vers le journal La Presse à présent. Une guerre de clans éclate au Bloc québécois. C'est rapporté par le journaliste Hugo de Grandpré. Les députés et la chef du Bloc québécois, Martine Ouellette, se rencontraient derrière des portes closes cette semaine à Ottawa pour tenter de régler la crise majeure qui agite la formation politique et qui a poussé la chef, Martine Ouellette, et 7 de ses députés à s'affronter publiquement dans les médias. 7 des 10 députés bloquistes ont affirmé dans un point de presse cette semaine que le lien de confiance avec la chef Martine Ouellette avait été rompu. Cette dernière s'est quant à elle tournée vers une station de radio de Montréal pour dénoncer une mutinerie au sein de son caucus et appeler ses membres à mettre leur ego de côté. Les tensions entre la chef bloquiste et ses députés montaient depuis plusieurs semaines, rappelle Hugo de Grandpré, mais elles ont éclaté au grand jour lorsqu'il a été révélé par le Huffington Post en matinée que le chef de cabinet de Mme Ouellette, Louis-Philippe Dubois, a divulgué des informations aux médias pour tenter de nuire à l'un d'eux, Réal Fortin. Voilà, donc bisbille au sein du Bloc québécois, vous aurez tous les détails dans le journal La Presse, c'est sous la plume de Hugo de Grandpré. On reste encore un peu dans les pages du journal La Presse. Le journaliste Martin Croteau écrit un article intitulé « 1 000 $ contre un diplôme, accueil tiède à Québec pour l'idée de Mitch Garber ». L'idée lancée par Mitch Garber de verser une somme d'argent aux diplômés pour encourager la persévérance scolaire a reçu un accueil tiède à l'Assemblée générale au Québec cette semaine. Le gouvernement Couillard et deux partis de l'opposition se sont prononcés contre l'idée de verser 1 000 $ aux diplômés des écoles publiques secondaires, comme l'a proposé l'homme d'affaires dans une entrevue récente accordée au journal La Presse. À son arrivée à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, a salué la préoccupation de l'homme d'affaires Mitch Garber pour la persévérance scolaire au Québec, mais il a indiqué du même souffle qu'il n'a pas l'intention de mettre en œuvre cette proposition. Justin Trudeau veut que les Québécois se sentent plus chez eux au Canada. C'est un article qui paraît dans le fil de la presse canadienne, un article signé par le journaliste Patrice Bergeron. Justin Trudeau assouplit sa ligne dure envers Philippe Couillard. Le premier ministre Trudeau veut bien que les Québécois se sentent davantage chez eux au Canada, mais pas question pour autant de relancer les négociations constitutionnelles. Justin Trudeau répondait ainsi au gouvernement Couillard en reprenant les termes de sa nouvelle politique d'affirmation du Québec, qui vise notamment à ce que les Québécois ne se sentent plus exilés dans leur propre pays. En conférence de presse à la Malbaie jeudi, en vue du sommet du G7 de 2018, le premier ministre fédéral a ainsi montré un peu plus d'ouverture aux propositions pour améliorer le fonctionnement du pays faites par le gouvernement Couillard, mais Justin Trudeau a refusé la conclusion ultime, c'est-à-dire des négociations assorties de conditions pour réintégrer le Québec dans l'ensemble constitutionnel de 1982. Donc si la question constitutionnelle vous intéresse, vous aurez les derniers développements. Récente déclaration de Justin Trudeau lors de la préparation du sommet du G7, c'était à Charlevoix cette semaine, c'est sous la plume de Patrice Bergeron. ALENA, ou si vous préférez NAFTA, des premiers ministres canadiens préparent le terrain à Washington. C'est dans le fil de la presse canadienne. Les premiers ministres de 8 provinces et territoires canadiens sont réunis à Washington pour une série de rencontres relativement à l'éventuelle renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA. Ces rencontres surviennent au moment où la capitale américaine est secouée par un scandale politique majeur et où les yeux des Américains sont rivés sur la diffusion du témoignage du directeur de la police fédérale américaine, récemment limogé James Comey. James Comey présente actuellement au comité des renseignements du Sénat ses observations quant aux interactions qu'il a eues avec le président américain Donald Trump, qui l'a congédié récemment. En visite à Washington, la première ministre ontarienne Kathleen Wynne a souligné qu'il y avait un travail important à accomplir et qu'il faut aller de l'avant en présumant que les négociations sur l'ALENA auront lieu sous l'administration de Donald Trump. L'incertitude politique a ajouté un élément d'imprévisibilité au dossier, a toutefois convenu la première ministre ontarienne, ajoutant que ses homologues et elle devaient continuer leur travail. Pendant que James Comey livre son témoignage, la délégation canadienne rencontre des membres du Congrès américain et de l'administration. Kathleen Wynne s'est dite optimiste pour la suite des choses dans les discussions sur l'ALENA en regard des commentaires qu'elle a entendus jusqu'à maintenant à Washington. Retour dans les pages de la presse, Jean-François Coderre signe un article intitulé « Ottawa dégriffe la loi anti-pourriel » ou « anti-spam » si vous préférez. À moins d'un mois de son entrée en vigueur, Ottawa a suspendu indéfiniment les dispositions les plus coriaces de sa loi anti-pourriel, celle qui devait donner aux citoyens le droit de poursuivre des entreprises fautives. La loi visant à promouvoir l'efficacité et la capacité d'adaptation de l'économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l'exercice des activités commerciales par voie électronique. Voilà un nom très long, effectivement, indique le journaliste Jean-François Coderre dans cet article. Cette loi, donc, existe en effet depuis 3 ans bientôt, mais la mise en application de certaines mesures, plus précisément les articles 47 à 51, ainsi que l'article 55, ne devait entrer en vigueur que le 1er juillet 2017, donc dans quelques semaines à peine. Quelles sont les dispositions de cette loi qui ont été suspendues par le gouvernement Trudeau? À compter du 1er juillet, répond le journaliste, il aurait été possible pour quiconque recevait un courriel non sollicité, donc un pourriel, de poursuivre l'émetteur. Les tribunaux auraient été ainsi autorisés à imposer le versement au demandeur de sommes pouvant atteindre un maximum de 1 million de dollars par jour. Alors voilà la disposition principale qui a été suspendue par le gouvernement et d'autres encore seront mises sur la glace. Donc cette loi anti-pourriel n'aura plus autant de mordant. C'est ce que nous rapporte le journaliste Jean-François Coderre dans cet article de La Presse. Dans le fil de la presse canadienne, on nous parle de sirop d'érable. La saison du sirop d'érable vient de s'achever. Le modèle de la FPAQ est valide, tranche la Cour suprême à Ottawa. Le modèle obligeant les producteurs de sirop d'érable à transiter par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, la FPAQ, pour vendre leur sirop d'érable, va rester en place. La Cour suprême du Canada a refusé cette semaine d'entendre 2 causes similaires liées à cet enjeu, notamment celle que portait l'acéricultrice Angèle Grenier. « J'ai le cœur gros », a réagi en entrevue téléphonique Angèle Grenier, une productrice acéricole de Sainte-Clotilde-de-Beauce. La voix tremblotante, la défaite est amère pour l'exploitante agricole qui se bat depuis des années devant les tribunaux pour vendre son sirop d'érable à qui elle l'entend. En juillet dernier, la Cour d'appel du Québec, entre autres, avait rejeté l'argument d'Angèle Grenier selon lequel les ventes de sirop d'érable à l'extérieur relevaient des règles fédérales et non de la FPAQ. Et on va terminer avec un article qui paraît dans notre portail indépendant britanno-colombien de Taï, de taï.ca. Canada's tax system is still subsidizing the ultra-rich. Autrement dit, le système fiscal canadien favorise toujours les 1% les plus nantis. C'est par le journaliste Dennis Howlett dans le Taï. Je vous recommande vivement la lecture de cet article. Et c'est avec cette actualité repérée pour vous sur le portail de Taillé que se clôt la revue de presse nationale pour les 8 et 9 juin. Le débrief vous revient dans quelques instants avec votre rubrique Francophonie du jour. À tout de suite. Alors, pour faire suite à la revue de presse internationale et à la revue de presse canadienne, on ouvre tout de suite la rubrique Francophonie pour les 8 et 9 juin. C'est une nouvelle aperçue pour vous dans le portail de TFO, TFO, la chaîne publique francophone de l'Ontario, sous la plume d'un journaliste qu'on cite fréquemment ici dans l'émission Le Débrief, Benjamin Vachet. Celui-ci signe un article intitulé « Élections indécises à la FCFA sur fond de division ». C'est un article publié en date du 8 juin. L'élection à la présidence de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, la FCFA, du Canada, se déroulera le 10 juin sur fond de division après le feuilleton de la nomination de Madeleine Meilleur. Interrogée par TFO, les organismes porte-parole de la francophonie canadienne hésitent entre deux candidats aux approches très différentes, écrit Benjamin Vachet dans cet article. Sylviane Lantier ou Jean Johnson, ce sont les deux candidats en question. Les organismes porte-parole de la francophonie des provinces et territoires sont rares à avoir déjà fait leur choix, écrit le journaliste. Seule l'Association des francophones du Yukon, l'AFY, et l'Association canadienne-française de l'Alberta, l'ACFA, ont déjà tranché. À Whitehorse, au Yukon, la présidente Angélique Bernard dit opter pour la continuité qu'incarne la présidente sortante de la FCFA, Sylviane Lantier. « Nous avons besoin de constance, dit-elle, notamment avec la nomination d'un nouveau directeur général. J'apprécie l'expérience de Mme Lantier. C'est une ancienne journaliste. La manière claire dont elle présente les dossiers. Elle est capable de mettre de côté ses réflexions personnelles pour laisser les membres se positionner, même s'il est toujours bien sûr difficile de plaire à tout le monde dans un si grand réseau pan-canadien. » Plus au sud, le président par intérim de l'ACFA en Alberta, Albert Nolette, privilégie son ancien président, Jean Johnson. « Nous ne voterons pas contre Mme Lantier, mais plutôt pour M. Johnson, dit-il. » En raison de son expérience en Alberta, où il a été très présent auprès des élus et où il a fait avancer les dossiers. La FCFA pourrait être plus visible sur la colline parlementaire à Ottawa et s'affirmer davantage sur certains dossiers, car cela nuit à sa capacité de faire connaître les besoins de la communauté. La présidente de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, la FFCB, Padmini Chandansingh, indique pour sa part qu'elle jugera les deux candidats sur leur programme. Quand son homologue de la société franco-manitobaine, la SFM, Jacqueline Blais, estime pour sa part que Mme Lantier s'en est bien sortie au cours des deux dernières années, dans un contexte difficile avec l'arrivée d'un nouveau parti au gouvernement. Coup de sonde également de la part du journaliste auprès de la FFTNL, la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador. Cyrilda Poirier se dit inquiète, rapporte le journaliste. On a le choix entre le statu quo et un changement radical, avec en plus une nouvelle direction générale. Cette situation m'inquiète, dit Mme Poirier dans cet article, d'autant que je sens de l'insatisfaction envers la FCFA de la part de certains organismes. Peut-être que nous n'avons pas toujours les discussions franches qui s'imposent, s'interroge-t-elle. Et pour la présidente de l'Assemblée communautaire françaiscoise, l'ACF, Françoise Sigur-Cloutier, le choix sera difficile. Ce sont deux candidats avec des approches et des personnalités très différentes, a-t-elle confié aux journalistes de TFO. Donc beaucoup d'incertitudes et certaines divergences en vue de cette élection à la FCFA. Vous aurez tous les détails dans cet article que publie Benjamin Vachet sur le portail de TFO dans la section ONFR. C'était là votre information à thématique francophone dans cette édition des 8 et 9 juin du débrief, votre rendez-vous info quotidien. Merci de rester à l'écoute de votre fréquence communautaire francophone locale.
ce maudit qui fait beau, je me fais griller la couenne, couché sur le dos. Un matin, c'était du bonheur en or, fallait que je sorte dehors, voir si mon maillot faisait encore. Il me fait quelle jouissance, maudit qui fait chaud, je me check la bédaine, couché sur le dos. Y'a une mouche qui se touche, la touche, ça fait pouf et touche, mon chien la bouffe et crie pouf pouf pendant que j'ai l'eau à la bouche, en pensant à toi. Miss Sunshine, take my hand, fall in love with me. Oh, Miss Sunshine, burn my skin, fall in love with me again. Assis sur mon balcon, c'est mieux que dans mon salon, même si dans ma télévision, Marie-Mé chante une chanson. Quelle jouissance, quand j'y pense, de réussir à prendre le temps de se laisser tromper par le vent. C'est pas ce qui me rendra plus savant, c'est pas ce qui me rendra plus rat, mais je me sens comme un éléphant qui se baigne dans un lac de peanuts. Miss Sunshine, take my hand, fall in love with me. Vas-y, vete, en cette belle journée d'été. Et que la nuit tape le jour pour que le ciel devienne rouge. Oh, Miss Sunshine, take my hand, fall in love with me. Oh, Miss Sunshine, burn my skin, fall in love with me again. Sunshine, ooh, oh, Miss Sunshine, take my hand, fall in love with me. Oh, sunshine, oh, sunshine.
L'artiste Jérôme Casabon à l'antenne de CLSFM 107,9. La pièce s'intitulait Miss Sunshine. C'est Alexis Gagnon en votre compagnie. Vous êtes toujours dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info à l'antenne du 107,9 FM. C'est le moment de passer aux nouvelles provinciales. On ouvre tout de suite la revue de presse britanno-colombienne. Colombie-Britannique, les libéraux testeront la confiance de l'Assemblée législative le 22 juin. Les politiciens sont rappelés à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique le 22 juin, mettant la table pour un possible transfert de pouvoir après 16 ans de gouvernance libérale, écrit la presse canadienne. La première ministre Christy Clark a déjà déclaré s'attendre à perdre une motion de défiance après la conclusion d'une entente entre les néo-démocrates et les Verts pour permettre la formation d'un gouvernement du NPD appuyé par le Parti vert d'Andrew Weaver. Aucun des partis n'a obtenu une majorité absolue de sièges lors des élections provinciales du 9 mai, rappelle cet article de la presse canadienne. Les libéraux ont obtenu 43 sièges sur les 87 de l'Assemblée législative, le NPD en a décroché 41 et le Parti vert a été crédité de 3 sièges, une percée majeure pour cette petite formation politique qui a obtenu un levier extraordinaire, une position d'arbitre pour l'exercice du pouvoir. En vertu de ces résultats, poursuit l'article, Christy Clark se retrouve dans une situation précaire. Le leader du gouvernement à l'Assemblée, Mike DeYoung, a annoncé mercredi par communiqué le rappel des élus, disant que le premier élément à l'ordre du jour serait d'élire un président. Après l'élection du président, a indiqué Mike DeJong, dans la foulée d'une élection très serrée, le gouvernement tentera de déterminer s'il a encore la confiance de l'Assemblée. Le chef du Parti vert, indique cet article, a salué la décision de rappeler les élus en chambre le 22 juin. « Je suis content de voir que la première ministre a finalement décidé de rappeler l'Assemblée », a déclaré Andrew Weaver. Dans les semaines ayant suivi l'élection, il a été encourageant de voir les trois partis convenir que les Britanno-Colombiens souhaitent que nous travaillions tous ensemble, a ajouté le chef du Parti vert. Je rappelle le titre de cet article, « Colombie-Britannique, les libéraux testeront la confiance de l'Assemblée législative le 22 juin ». Un nombre record de députés verts assermentés en Colombie-Britannique, rappelle cet article de Radio-Canada Colombie-Britannique. Sonia Furstenau, Andrew Weaver et Adam Olson savent qu'ils prennent part à un moment historique en montant les marches de l'Assemblée législative de Victoria pour leur assermentation. Tout sourire, le trio incarne le plus grand nombre de députés verts jamais élus en Colombie-Britannique. C'est au son des tambours que les trois députés verts, deux élus pour la première fois et Andrew Weaver, le chef réélu, ont fait leur entrée par la grande porte de l'Assemblée législative de Colombie-Britannique. Les trois députés représentent la balance du pouvoir. Grâce à leur alliance avec le nouveau Parti démocratique, ils ont aussi accès à la majorité, rappelle cet article de Radio-Canada. Les députés du Parti libéral et du NPD, poursuit l'auteur, se feront pour leur part assermenter plus tard. Et cet article mentionne au passage qu'Adam Olson est l'un des quatre autochtones élus le 9 mai, ce qui marque une autre page d'histoire pour la Colombie-Britannique. Le député de Saanich Nord et les îles du Golfe, qui est né et a grandi dans la première nation de Tsarplip, a donc eu droit à une cérémonie traditionnelle autochtone pour l'occasion. On va aller dans les pages du média canoë.ca. Le procès d'un haut gradé de la GRC s'est mis en branle en Colombie-Britannique, rapporte cet article. Accusé d'agression sexuelle, Tim Shields, un ancien porte-parole haut gradé de la Gendarmerie royale du Canada, s'est présenté en cour mercredi lors de l'ouverture de son procès à la Cour provinciale de Vancouver, ont rapporté plusieurs médias. Dans une déclaration, la police a précisé que cette accusation contre Tim Shields, une figure bien connue dans les médias, découle d'allégations en lien avec des faits qui se seraient produits entre 2009 et 2010 dans l'ancien édifice de la GRC à Vancouver. Michel Booker, procureur de la Couronne, a précisé devant le juge que la victime avait été agressée dans les toilettes fermées dans les bureaux de la GRC en Colombie-Britannique, mais également au quartier de la Division E à Vancouver. La victime a demandé à l'agresseur de s'arrêter. Le harcèlement a continué, a déclaré la procureure. L'identité de la victime ne peut être dévoilée puisqu'elle est protégée par une interdiction de publication. Au moment des incidents présumés, Shields était chargé des communications stratégique et était le visage public de la GRC dans la province de Colombie-Britannique. Quatre Britanno-Colombiens au Forum national des jeunes ambassadeurs. C'est un autre article que fait paraître le portail Britanno-Colombien de Radio-Canada. Quatre élèves du secondaire représenteront la Colombie-Britannique à la 14e édition du Forum national des jeunes ambassadeurs, le FNJA, à Charlottetown en août. L'organisme Le Français pour l'avenir, qui a créé cet événement annuel, a révélé mercredi dans un communiqué le nom des francophones et francophiles sélectionnés, qu'il qualifie de visage du bilinguisme au Canada et leader de demain. Parmi les 24 participants, 4 sont issus de Colombie-Britannique. Il s'agit de Elizabeth Corbett, une élève de 11e année à l'école Anse au Sable à Kelowna. Ensuite, on a Ali Ridock, un élève de 10e année à l'école secondaire Dr. Charles Best à Coquitlam. On a aussi Anna Billings, de 11e année de l'école secondaire de Brookswood à Langley. Et finalement, Cameron McDonald, un élève de 10e année de l'école secondaire Earl Marriott de White Rock. Le Français pour l'avenir vise à promouvoir le bilinguisme, rappelle cet article. Il encourage les élèves de la 7e à la 12e année à apprendre le français et à communiquer dans cette langue. Des ateliers et des activités pour développer le leadership et la communication des ambassadeurs auront lieu au forum qui se déroulera du 21 au 25 août prochain. Plus localement maintenant, le quotidien Times Colonist à Victoria nous signale qu'une collision sérieuse a eu lieu sur Pandora, là où se trouve justement la nouvelle voie cycliste protégée. Cette collision soulève des interrogations, des questionnements de la part de la communauté des cyclistes à Victoria. Est-ce que ces nouvelles voies cyclables sont sécuritaires? La collision, en tout cas, inquiète beaucoup les membres de la communauté cycliste. Vous trouverez cet article dans le Times Colonist sous la manchette « Serious crash on Pandora bike lane raises flags ». C'est par les journalistes Bill Cleverly et Katie DeRosa. Alors, cette collision s'est produite entre un cycliste âgé de 21 ans et une fourgonnette. La fourgonnette entravait la voie cycliste et s'est immobilisée subitement. Le cycliste n'a pas eu le temps de freiner. Il s'est disloqué une épaule. Donc, peut-être faudra-t-il améliorer la signalisation à cet endroit et un peu partout sur cette voie cyclable de Pandora. Toujours dans les colonnes du Times Colonist, on nous apprend que la ville de Victoria soumettra sa candidature en vue des Jeux du Commonwealth de 2022. L'annonce a été faite par David Black, qui est président du comité d'organisation de ces Jeux. Victoria, donc, qui soumet sa candidature en vue de 2022 pour les Jeux du Commonwealth. C'est encore une fois dans le Times Colonist que vous aurez cette nouvelle. Le média Victoria News en parle également à l'adresse vicnews.com. On revient dans les pages du portail britanno-colombien de Radio-Canada. Un fait divers signalé à propos d'un meurtre survenu au Québec, mais le suspect a été arrêté ici dans la province. Meurtre au Mumba de Laval, le suspect arrêté en Colombie-Britannique. La police de Laval a confirmé l'arrestation dans la région de Vancouver de l'homme recherché concernant un meurtre survenu au bar Le Mumba à Laval le 18 mai. Mohamed Ashraf Matoug, 26 ans, est soupçonné d'avoir poignardé la victime, un homme de 33 ans, avec une arme blanche. Il doit maintenant être rapatrié à Laval pour comparaître sous une accusation de meurtre. Considéré comme violent et armé, Matoug faisait l'objet d'un mandat d'arrestation pan-canadien. La police de Vancouver et la Gendarmerie royale du Canada ont contribué à sa recherche et à son arrestation. Deux grizzlies agressifs abattus dans le nord de la Colombie-Britannique. C'est encore une fois sur le portail britanno-colombien de Radio-Canada qu'on trouve cette nouvelle. Deux grizzlies ont dû être abattus par une famille du village d'Atlin dans le nord de la Colombie-Britannique après que les bêtes eurent démontré un comportement menaçant. Rick Cowan venait tout juste de rentrer chez lui après une journée de jardinage quand sa compagne a aperçu deux ours grizzlies dans la cour. Le résident d'Atlin s'est dépêché d'ouvrir la porte et a crié à son chien de rentrer. Les deux ours se sont alors immédiatement dirigés vers lui de façon agressive. Il a réussi à refermer la porte tandis que les deux bêtes n'étaient plus qu'à 1,5 mètre de distance. Ces ours se dirigeaient droit vers nous quand nous leur donnions le signal de déguerpir, même en criant, en klaxonnant et même en tirant du fusil. Ils se dirigeaient vers nous et c'est très inhabituel pour un ours, a commenté Rick Cowan. Celui-ci s'est ensuite empressé d'aviser sa fille par la fenêtre qui était dans le chalet tout près. Les deux ours se sont également dirigés vers elle pendant qu'elle rentrait son propre chien. Et ils ont été finalement abattus par le grand-père de la famille qui est arrivé avec un véhicule et un fusil un peu plus tard. Et c'est avec cet article repéré pour vous sur le portail de Radio-Canada Colombie-Britannique qu'on complète aujourd'hui le tour d'horizon des nouvelles de Colombie-Britannique. Mon nom est Alexis Gagnon, vous écoutez toujours l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9, votre fréquence francophone communautaire dans la grande région de Victoria. On fait une courte pause, au retour, la météo des prochains jours. Cette édition des 8 et 9 juin tire à sa fin. Merci de l'avoir suivi avec nous à l'antenne de votre fréquence communautaire francophone locale, CILS FM 107,9. Alexis Gagnon au micro. On jette un petit coup d'œil à la météo avant de se laisser. On a eu un temps maussade ce matin. C'était très pluvieux en matinée du 8 juin pour ceux qui nous écoutent dans la fin de journée du jeudi 8 juin. Ça s'est amélioré quelque peu au cours des premières heures de l'après-midi. C'est désormais assez dégagé avec des passages nuageux. On a 15 degrés au mercure en fin d'après-midi. Ça sera partiellement nuageux en fin de soirée avec 40% de probabilité d'averse toujours. Demain, c'est un combo soleil-nuage selon le pronostic qu'émet Environnement Canada dans le portail météo.gc.ca. Un maximum de 16 degrés et une probabilité d'averse de 40%. Donc, des passages nuageux, un peu de soleil, soleil et potentiellement quelques averses demain, vendredi 9 juin. Pour le week-end, ça semble à peu près un copier-coller pour la journée du 10 juin. 18 degrés, un petit peu plus chaud. Soleil et nuages, une probabilité d'averse qui sera d'environ 30%, un peu plus faible. Et pour dimanche 11 juin, ce sera nuageux avec un maximum de 19. Voilà pour la météo. Merci d'avoir suivi le débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. Excellente soirée à tous pour ceux qui nous écoutent en fin de journée. Et bonne journée du vendredi 9 juin pour ceux qui nous écoutent en rediffusion. À très bientôt.
Vous écoutez CLS FM, votre radio communautaire.
Vous aimeriez en connaître plus sur l'histoire personnelle des grands compositeurs classiques? L'influence de la modernisation des instruments dans la musique de 1600 à aujourd'hui? Ne manquez pas Histoire classique avec Louise Alpin, diffusée 3 fois par semaine sur les ondes de CLS FM.
À quand? prend le risque.
À quand des yeux dans les yeux, on fera du strip. T'attends pas qu'on me pique ou que je fasse trop de fric.
Peut-être que j'en ai peur. J'suis comme un vieux photocopieur. J'copie ce que j'ai vu ou entendu. J'file comme une machine de temps en temps. J'ai le cœur sur pause trop souvent. Y a-tu quelqu'un d'autre qui me comprend?
J'aime ta belle robe rouge, j'aime tes beaux colliers, j'aime te voir danser. Ouh! Comment tu bouges, on a toute la soirée, rien que minuit moins que. du monde qui parle. Y'en a qui veulent danser. Moi, je veux faire le party. Ouh! Et pour que ça saute, sortez les tables dehors. Tu danses avec moi, ben on va s'amuser. Oh, danse pas avec lui, viens faire un nouvel ami. Laisse le fret dehors, y'a que des nuits ou encore. Il restera de la bière, puis qu'il restera du fort. Le party continue, l'horloge est dans.